Chapitre 6. Dans l'histoire que je raconte, les événements se pressent rapides comme les événements d'un drame. Je décris une époque dans laquelle il suffisait de quelques jours pour faire mûrir les fruits d'une année. Arbacès avait peu fréquenté la maison d'Ionée depuis quelque temps, et lorsqu'il y était allé, il n'avait pas rencontré Glaucus. Il ignorait l'amour qui s'était si soudainement interposé entre lui et ses projets. Particulièrement occupé du frère d'Ionée, il avait été momentanément forcé de suspendre ses visites à la sœur et d'ajourner ses desseins. Son orgueil et son égoïsme s'étaient réveillés tout à coup. Il s'alarmait du changement survenu dans l'esprit du jeune homme. Il tremblait à l'idée qu'il pouvait perdre un élève docile et Isis un serviteur enthousiaste. On trouvait rarement un Pasidès. Il évitait les lieux où il aurait rencontré l'Égyptien. Il le fuyait même lorsqu'il l'apercevait de loin. Arbacès était d'un ces hautains et puissants esprits accoutumés à dominer les autres. Il s'indignait qu'une créature qu'il avait regardée comme mettant à lui pût secouer son joug. Il se promit qu'Apaïsides ne lui échapperait pas. Telle était sa pensée pendant qu'il traversait un bosquet situé dans l'intérieur de la ville, entre sa maison et la maison d'Ionée, où il se rendait. Il aperçut, appuyé contre un arbre et regardant la foule, le jeune prêtre d'Isis qui ne le vit pas venir. « Apaïsides, dit-il, et il posa d'un air tout amical sa main sur l'épaule du jeune homme. Le prêtre tressaillit, son premier mouvement fut de s'enfuir. « Mon fils, dit l'Égyptien, qu'est-il arrivé pour que vous paraissiez empressé d'éviter ma présence ?» Apaïsides demeura silencieux et morne, les yeux attachés à la terre et les lèvres tremblantes, la poitrine oppressée d'une vive émotion. « Parle-moi, mon ami, continua l'Égyptien, parle. Quelque fardeau pèse sur ton esprit. Qu'as-tu à me révéler ? À vous, Orien. Et pourquoi m'exclure ainsi de tes confidences ? Parce que je vois en vous un ennemi. Expliquons-nous, dit Arbacès à voix basse. Et prenant le bras du prêtre sous le sien, malgré quelques résistances, il conduisit le jeune homme vers un des bancs qui garnissaient le bosquet. Ils s'assirent et leur contenance morne s'accordait bien avec l'ombre et la solitude du lieu. Apaïsides était dans le printemps de son âge. Cependant, il paraissait avoir plus vécu que l'Égyptien. Ses traits délicats et réguliers étaient fatigués et décolorés. Ses yeux creux ne brillaient que d'un éclat pareil à celui que donne la fièvre. Son corps se courbait prématurément, et sur ses mains délicates comme celles d'une femme, de petites veines bleuâtres et tuméfiées indiquaient la lassitude et les faiblesses du relâchement de ses fibres. Sa figure avait une frappante ressemblance avec celle d'Ionée, mais l'expression différait beaucoup de ce calme majestueux et spirituel qui donnait à la beauté de sa sœur un repos divin et que maintenant nous appellerions classique. Chez elle, l'enthousiasme était visible, quoique toujours modeste et contenu. C'était là le charme et le sentiment de sa physionomie. On éprouvait ce désir qu'excitait un esprit qui paraissait tranquille, mais qui ne sommeillait pas. Chez Apaïsides, tout révélait la ferveur et la passion de son tempérament. Et la portion intellectuelle de sa nature, par les larges flammes de ses yeux, par la largeur de ses tempes comparée à la hauteur de ses sourcils, par le frémissement de ses lèvres, semblait être sous l'empire d'une rêverie idéale et profonde. L'imagination de la sœur s'était arrêtée au seuil sacré de la poésie. Celle de son frère, moins heureuse et moins retenue, s'était égarée dans le champ des visions impalpables et sans forme. Les facultés qui avaient paré l'une des dons du génie menaçaient d'apporter la folie à l'autre. « Vous prétendez que j'ai été votre ennemi ?» dit Arbacès. « Oh, je connais la cause de cette injuste accusation. Je vous ai placé parmi les prêtres d'Isis, mais vous vous révoltez de leur supercherie et de leurs impostures. Vous pensez que je vous ai trompé aussi. La pureté de votre cœur s'en offense. Vous imaginez que je suis aussi un imposteur. Vous connaissiez les jongleries de ce culte impie, répondit Apaïsides. Pourquoi me les avoir cachées? Lorsque vous me pressiez si vivement de me dévouer à cette profession dont je porte le costume, vous ne cessiez de me parler de la sainte vie de ces hommes consacrés à la science. Vous m'avez jeté dans la compagnie d'un ignorant et sensuel troupeau qui n'a d'autre connaissance que celle des fraudes les plus grossières. Vous me parliez d'hommes sacrifiant les plaisirs mondains à la sublime étude de la vertu, et vous m'avez mis au milieu d'hommes souillés de tous les vices. Vous me parliez d'amis, de guides flamboyants du genre humain. Je ne vois que des trompeurs et des traîtres. Oh, vous avez eu tort. Vous m'avez enlevé la gloire de ma jeunesse, ma foi sincère à la vertu, ma soif sanctifiante de sagesse. Jeune comme j'étais, riche, plein de ferveur, ayant devant moi tous les brillants plaisirs de la terre, je me résignais sans soupirer avec bonheur, avec exaltation, dans la pensée que j'allais pénétrer les mystères de la sagesse suprême, jouir de la société des dieux et des révélations du ciel. Maintenant. Un sanglot convulsif étouffa la voix du prêtre. Il se couvrit le visage de ses mains et de grosses larmes se firent passage à travers ses doigts et inondèrent ses vêtements. Ce que je t'ai promis, je te le donnerai, mon ami, mon élève. Les choses dont tu te plains n'ont été que des épreuves pour ta vertu. Ton noviciat n'a fait qu'en rehausser l'éclat. Ne pense plus à toutes ces fourberies de bas étage. Il est temps que tu ne sois plus confondu avec ces esclaves de la déesse, serviteurs subalternes de son temple. Tu es digne d'entrer dans l'enceinte sacrée. Je serai désormais ton prêtre, ton guide. Et toi, qui maudis en ce moment mon amitié, tu vivras pour la bénir. Le jeune homme releva la tête et regarda l'Égyptien avec un vague étonnement. « Écoute-moi, » continua Arbacès d'une voix plus puissante et plus solennelle, après avoir eu soin de s'assurer qu'ils étaient seuls. « De l'Égypte est venue toute la science du monde. » À l'Égypte, Athènes emprunta sa philosophie et la Crète sa profonde politique. À l'Égypte appartenaient ces tribus mystérieuses qui, longtemps avant que les hordes de Romulus se répandissent dans les plaines de l'Italie et fissent rentrer la civilisation dans la barbarie et dans les ténèbres, ces tribus mystérieuses qui possédaient tous les arts de la sagesse et toutes les grâces de la vie intellectuelle. De l'Égypte sont sortis les rites et la grandeur de cette solennelle Caérée, dont les habitants enseignèrent à leurs vainqueurs romains tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui de plus élevé comme religion, de plus sublime comme culte. Et de quelle façon penses-tu, jeune homme, que cette redoutable Égypte, mère de nations sans nombre, soit parvenue à sa puissance et à la haute conception de la sagesse? Ce fut le résultat de sa profonde et sainte politique. Vos nations modernes doivent leur grandeur à l'Égypte. L'Égypte doit sa grandeur à ses prêtres. Recueillis en eux-mêmes, ne briguant d'empire que sur la plus noble partie de l'homme, sur son âme et sur sa foi, ces anciens ministres de Dieu étaient inspirés des plus grandes pensées qui aient jamais exalté des mortels. Les révolutions des astres, les saisons de la terre, les ténèbres cercles des destinées humaines leur offrirent une auguste allégorie. Ils la rendirent palpable et visible aux yeux du vulgaire par des signes, les dieux et les déesses. Et ce qui était en réalité gouvernement prit le nom de religion. Isis est une fable, ne te scandalise pas. Car le type d'Isis représente en réalité un être immortel. Isis n'est rien. La nature dont elle est le symbole est la mère de toutes choses. sombre, ancienne, insondable, excepté pour un petit nombre d'initiés. Aucun mortel ne m'a jamais ôté mon voile, dit cette Isis que tu adores. Mais pour les sages, ce voile a été soulevé. Nous nous sommes tenus face à face devant la solennelle beauté de la nature. Les prêtres ont donc été les bienfaiteurs, les civilisateurs de l'humanité, quoiqu'ils fussent en même temps des imposteurs, si tu veux les appeler ainsi. Mais crois-tu, jeune homme, que s'ils n'avaient pas trompé les hommes, ils n'eussent pu les servir? La foule ignorante et servile a besoin d'un bandeau pour être conduite à son propre bonheur. On ne brise pas une maxime, on révère un oracle. L'empereur de Rome étend sa domination sur diverses tribus de la terre et met de l'harmonie entre ces éléments contraires et désunis. Et de là naissent la paix, l'ordre, la loi, les félicités de la vie. Crois-tu que ce soit l'homme, que ce soit l'empereur qui règne ainsi? Non, c'est la pompe, le respect, la majesté qui l'entoure. Telles sont ses impostures et telle est sa magie. Nos oracles, nos divinations, nos rites et nos cérémonies ne sont que les moyens de notre souveraineté, les instruments de notre pouvoir. Les uns et les autres mènent à la même fin, au bien-être et à l'harmonie de l'humanité. Mais tu m'écoutes avec plus d'attention et d'ardeur. Ah, la lumière se fait dans ton esprit. Apacides demeurait silencieux. Mais les rapides émotions dont on pouvait saisir le passage sur sa figure expressive trahissaient l'effet des paroles de l'Égyptien, paroles rendues plus éloquentes encore par l'aspect et les gestes du personnage. « Ainsi donc, continua Arbacès, pendant que nos prêtres du Nil établissaient les premiers éléments au moyen desquels le chaos est détruit, à savoir l'obéissance respectueuse de la multitude au petit nombre, ils tiraient de leur majestueuse et céleste méditation cette sagesse qui n'était plus une imposture. Ils inventaient les codes et la régularité des lois, les arts et les gloires de l'existence. Ils demandaient la foi. Ils donnaient en retour les bienfaits de la civilisation. Leur tromperie, n'était-ce pas de la vertu? Crois-moi. Tout être d'une nature bienfaisante, d'une essence plus éthérée, qui regarde du haut des cieux notre monde, sourit avec sympathie à la sagesse qui a produit de pareils résultats. Mais tu sembles désirer que j'applique ces généralités à toi-même. J'obéis volontiers à tes désirs. Les autels de la déesse de notre ancienne foi doivent être desservis, et doivent l'être par ces individus sans intelligence et sans âme, qui ne sont pour ainsi dire que des clous et des crochets où se suspendent la robe et le bandeau. Rappelle-toi deux maximes de Sextius, le pythagoricien, maximes empruntées à la science de l'Égypte. La première, ne parle pas de Dieu à la multitude. La seconde, l'homme digne de Dieu est un dieu parmi les hommes. De même que le génie a donné aux ministres d'Égypte le culte, cet empire si fâcheusement déchu dans les derniers temps, de même il appartient au génie d'en rétablir la domination. J'ai trouvé en vous, Apaïsides, un disciple digne de mes leçons, un ministre digne de la grande œuvre que nous devons accomplir. Votre énergie, vos talents, la pureté de votre foi, la promptitude de votre enthousiasme, tout vous préparait à cet emploi qui demande de si hautes et de si ardentes qualités. J'ai donc excité vos désirs sacrés. Je vous ai encouragé à marcher dans la voie que vous aviez prise. Mais vous m'en voulez de ce que je ne vous ai pas fait connaître les petites âmes et les jongleries de vos compagnons. Mais si je l'avais fait, Apaïsides, j'aurais défait mon propre ouvrage. Votre noble nature se serait révoltée, et Isis eût perdu un prêtre. La Palestinès poussa un profond soupir. L'Égyptien continua sans prendre garde à cette interruption. « Je vous plaçais en conséquence, sans préparation, dans le temple. Je vous laissais à vous-même le soin de découvrir les momeries qui éblouissent la foule et de vous en formaliser. Je souhaitais que vous puissiez apercevoir de vos propres yeux les ressorts qui font jaillir les eaux rafraîchissantes où le monde puise la paix. C'était l'ancienne épreuve ordonnée autrefois par nos prêtres. Ceux qui s'accoutument aux impostures du vulgaire, on les laisse les pratiquer. Mais pour ceux qui vous ressemblent et dont la nature plus haute demande un autre but, la religion leur dévoile ses mystères divins. Je suis heureux de rencontrer en vous le caractère que j'attendais. Vous avez prononcé vos vœux, vous ne pouvez reculer. Avancez, je serai votre guide. Mais qu'as-tu donc à m'apprendre encore, homme étrange et redoutable? De nouvelles tromperies, de nouveau. Non! Je t'ai lancé dans l'abîme de l'incrédulité, je veux te ramener sur les hauteurs de la foi. Tu as vu les faux types, tu connaîtras maintenant les réalités qu'ils représentent. Il n'y a pas d'ombre à Palestinès qui naît son corps. Viens me voir cette nuit. Ta main. Ému, excité, fasciné par le langage de l'Égyptien, Apaïsides lui tendit la main et le maître et le disciple se séparèrent. Il était vrai que pour Apaïsides, toute retraite était impossible. Il avait fait vœu de célibat. Il s'était consacré à une vie qui semblait maintenant lui offrir toutes les austérités du fanatisme sans les consolations de la foi. N'était-il pas naturel qu'il éprouvât le désir de se réconcilier avec son irrévocable carrière? Le puissant et profond esprit de l'Égyptien reprenait son empire sur sa jeune imagination. Elle le poussait à de vagues conjectures et l'entraînait à des alternatives de crainte et d'espérance. Pendant ce temps, Arbacès se dirigeait d'un pas grave et lent vers la maison d'Ionée. À son entrée dans le tablinum, il entendit du portique du péristyle une voix qui, tout harmonieuse qu'elle était, résonna mal à son oreille. C'était la voix du jeune et beau Glaucus, et pour la première fois, un frisson involontaire de jalousie fit tressaillir son cœur. Il trouva dans le péristyle Glaucus assis à côté d'Ionée. La fontaine au milieu du jardin odorant jetait dans l'air son écume d'argent et répandait une délicieuse fraîcheur pendant les heures étouffantes du milieu du jour. Les femmes d'Ionée, qui restaient invariablement près d'elle, car dans la liberté de sa vie elle gardait la plus délicate retenue, se tenaient à un peu de distance. Au pied de Glaucus était une lyre sur laquelle il venait de jouer pour Ionée un air lesbien. La scène, le groupe placé devant Arbacès, était empreint de cet idéal poétique et plein de raffinement que nous regardons encore et avec raison comme le caractère particulier des anciens. On voyait les colonnes de marbre, les vases de fleurs, la statue blanche et tranquille au bout de chaque perspective, et par-dessus tout cela, les deux femmes, formes vivantes, qui aurait fait l'aspiration ou le désespoir d'un sculpteur. Arbacès, s'arrêtant aussitôt, regarda le beau couple avec un front d'où venait de fuir toute sa sérénité accoutumée. Il fit un effort sur lui-même, et s'approcha lentement d'un pas léger et sans écho, tel qu'aucun serviteur ne l'entendit bien moins encore Ionée et son amant. Et pourtant, disait Glaucus, c'est seulement avant que nous aimions que nous trouvons que nos poètes ont bien écrit cette passion. Au moment où le soleil se lève, tous les astres qui avaient brillé dans son absence s'évanouissent dans l'air. Les poètes n'existent non plus que pendant la nuit du cœur. Ils ne sont rien pour nous lorsque le Dieu nous fait sentir la puissance de ses rayons. « Aimable et brillante comparaison, noble Glaucus. Tous deux tressaillirent en apercevant derrière le siège d'Ionée la figure froide et sarcastique de l'Égyptien. « Ah, un hôte inattendu !» dit Glaucus en se levant avec un sourire forcé. « Rien de plus simple lorsqu'on est sûr d'être bien reçu !» répondit Arbacès en s'asseyant et en engageant Glaucus par un signe à en faire autant. « Je suis bien aise, dit Ionée, de vous voir ensemble à la fin, car vous êtes fait pour vous comprendre et pour devenir amis. » « Rendez-moi une quinzaine d'années, répliqua l'Égyptien, avant de me comparer à Glaucus. J'accepterai volontiers son amitié, mais que lui offrirai-je en retour? Aurions-nous les mêmes confidences à nous faire? Lui parlerai-je de banquets, de guirlandes, de fêtes, de coursiers partent, des chances du jeu? Oh, ce sont là les plaisirs habituels à son âge, à sa nature, à ses goûts. Ce ne sont pas les miens. » En parlant ainsi, l'astucieux Égyptien baissa les yeux et soupira. Mais du coin de l'œil, il regarda Ionée pour voir comment elle accueillerait ses insinuations sur les goûts de son visiteur. Et l'air d'Ionée ne satisfit pas. Glaucus, dont les joues se colorèrent légèrement, s'empressa de répondre avec gaieté. Il avait aussi sans doute le désir de déconcerter et d'humilier l'Égyptien. « Vous avez raison, sage Arbacès, dit-il. Nous pouvons nous estimer l'un l'autre, mais nous ne saurions être amis. Mes banquets manquent de ce sel mystérieux qui, si l'on en croit la rumeur publique, assaisonne les vôtres. Et par Hercule, lorsque j'aurai vos années... Si, comme vous, je crois sage de rechercher les plaisirs de l'âge mûr, je lancerai aussi le sarcasme sur les galantes folies de la jeunesse. » L'Égyptien jeta à Glaucus un regard rapide et perçant. « Je ne vous comprends pas, dit-il froidement, mais les gens d'esprit ont souvent l'habitude de s'envelopper d'obscurité. » Il détourna la tête à ces mots avec un sourire presque imperceptible, et après un instant de silence, il s'adressa à Ionée. Je n'ai pas été assez fortuné, belle Ionée, pour vous rencontrer chez vous les deux ou trois dernières fois que je suis venu pour vous rendre visite. La douceur de la mer m'avait tenté de sortir, reprit Ionée, avec un léger embarras. Cet embarras n'échappa pas à Arbacès, mais sans paraître le remarquer, il reprit en souriant. « Vous savez que le vieux poète a dit « Les femmes doivent rester dans leur maison et y converser. » Donc ce poète était un cynique, dit Glaucus. Il haïssait les femmes. Il parlait selon la coutume de son pays, et ce pays était votre Grèce, si vantée. Autre temps, autre mère, si nos ancêtres avaient connu Ionée, ils auraient suivi une autre loi. Avez-vous appris ces manières galantes à Rome ? Dit Arbacès, avec une émotion mal déguisée. Ce n'est pas du moins en Égypte que je serais allé apprendre la galanterie, répondit Glaucus en jouant nonchalamment avec sa chaîne. Allons, allons, dit Ionée en s'empressant d'interrompre une conversation dont le commencement ne répondait pas au désir qu'elle avait de cimenter une amitié réelle entre Glaucus et l'Égyptien. Allons, allons, il ne faut pas qu'Arbacès soit si sévère pour sa pauvre pupille. Orpheline, élevée dans les soins d'une mère, je puis être blâmé de l'indépendance de ma vie, plus convenable pour un homme que pour une femme. Cependant, c'est celle à laquelle les femmes romaines sont accoutumées et que les Grecs auraient raison d'adopter. Hélas, est-ce donc seulement chez les hommes qu'on peut voir la liberté et la vertu réunies? L'esclavage, votre perte, serait-il donc considéré comme notre salut? Ah, croyez-moi, ça a été une grande erreur des hommes, une erreur qui a tristement influé sur leur destinée, d'imaginer que la nature des femmes est, Oh, je ne dis pas inférieure à la leur, cela peut-être, mais si différente qu'ils se soient crus obligés de faire des lois peu favorables au développement de notre esprit. N'ont-ils pas, en agissant ainsi, fait des lois contre leurs propres enfants, que les femmes doivent élever contre les maris eux-mêmes, dont les femmes devraient être les amies, toujours et quelquefois les conseillères? Ionée se tut soudain. Une rougeur ravissante se répandit sur sa figure. Elle craignit que cet enthousiasme ne fût allé trop loin. Cependant, elle redoutait moins l'austère Arbacès que le tendre Glaucus, car elle aimait le dernier, et ce n'était pas l'usage des Grecs de permettre aux femmes, à celles du moins qu'ils honoraient, la liberté dont jouissait celle de l'Italie. Ce fut avec un vif sentiment de joie qu'elle entendit Glaucus s'écrier: Oh, puissiez-vous toujours penser ainsi, Ionée! Puisse votre cœur innocent être toujours votre guide! Heureuse eût été la Grèce si elle avait jamais permis aux femmes chastes les privilèges de l'esprit si célèbre chez les moins respectables de ses beautés. Aucune décadence ne provient de la liberté ni de la science, lorsque votre sexe sourit à l'homme libre et sait apprécier et encourager l'homme sage. Arbacès gardait le silence, car il ne lui convenait ni d'approuver l'opinion de Glaucus, ni de condamner celle d'Ionée. Après une conversation brève et embarrassée, Glaucus se retira. Lorsqu'il fut parti, Arbacès, rapprochant son siège de celui de la belle Napolitaine, dit d'une voix adoucie et pénétrante, sous laquelle il savait si bien dissimuler l'artifice et l'opiniâtreté de son caractère: Ne croyez pas, ma douce pupille, s'il m'est permis de vous appeler ainsi, que je veuille gêner cette liberté dont vous savez vous faire un honneur. Mais, quoiqu'ainsi que vous l'avez observée avec justesse, elle ne surpasse pas celle des dames romaines. Il est bon qu'une personne qui n'est pas encore mariée n'en eût qu'avec discrétion. Continuez à attirer à vos pieds tout ce qu'il y a de gai, de brillant, de sage même, autour de vous. Continuez à charmer cette foule d'adorateurs avec la conversation d'une Aspasie, les accords d'une Erinna. Mais considérez néanmoins que des langues promptes à la censure peuvent aisément ternir la réputation d'une jeune fille. Et lorsque vous provoquez l'admiration, je vous en conjure, ne donnez pas prise à l'envie. Que voulez-vous dire, Arbacès? S'écria Ionée d'une voix tremblante et alarmée. Je sais que vous êtes mon ami, que vous ne désirez que ma gloire et mon bonheur. Expliquez-vous. Votre ami, oh oui, je le suis sincèrement. Puis-je donc parler en qualité d'ami, sans réserve et sans crainte de vous offenser? Je vous en prie. Ce jeune débauché, ce Glaucus, depuis combien de temps le connaissez-vous? L'avez-vous vu souvent? Arbacès, en prononçant ces paroles, attacha son regard sur Ionée comme s'il voulait pénétrer au fond de son cœur. Se rejetant en arrière sous la fixité de ce regard, avec une étrange peur dont elle ne pouvait se rendre compte, la belle Napolitaine répondit avec une confuse hésitation: Il a été conduit chez moi par un des compatriotes de mon père et, je puis dire, par un des miens. Oh, je ne le connais que depuis une semaine, mais pourquoi ces questions? Oh, pardonnez-moi, dit Arbacès, je croyais que vous le connaissiez depuis plus longtemps, ce vil calomniateur. Ah, comment? Que signifie cela? Quel terme? N'importe, je ne veux pas soulever votre indignation contre un homme qui ne mérite pas un tel honneur. Je vous supplie de parler. Que peut avoir dit Glaucus? Ou plutôt, en quoi supposez-vous qu'il ait pu m'offenser? Retenant le dépit que lui causèrent les dernières paroles d'Ionée, Arbacès continua: Vous connaissez ses mœurs, ses compagnons, ses habitudes. La table et le jeu, voilà ses seules occupations. Mais dans la société du vice, comment pourrait-il apprécier la vertu?
Vous parlez toujours par énigme. Au nom des dieux, je vous adjure, dites tout ce que vous savez.
Eh bien, qu'il en soit ainsi. Apprenez, Ionée, que c'est Glaucus lui-même se vantait ouvertement, oui, dans les bains publics, de votre amour pour lui. Il s'amusait, disait-il, des progrès qu'il faisait sur votre cœur. Je dois lui rendre justice, il louait votre beauté, qui pourrait la nier. Mais il riait dédaigneusement lorsque son Clodius ou son Lépidus lui demandait s'il vous aimait assez pour songer à vous épouser et s'il en suspendrait bientôt des guirlandes à sa porte.
Mais c'est impossible, où avez-vous recueilli cette calomnie infâme?
Voudriez-vous que je vous rapportasse tous les commentaires des fats insolents qui ont répandu cette histoire dans la ville? Soyez assuré qu'au premier abord, je n'y ai pas ajouté foi, et qu'il m'a fallu me convaincre, par le grand nombre des témoins, de la vérité de ce que je vous apprends qu'à regret. Ionée s'affaissa sur son siège, et sa figure était plus blanche que le pilier contre lequel elle s'appuya pour ne pas tomber à la renverse. « J'avoue, poursuivit Arbacès, que j'éprouvais une vive irritation, un profond dépit, de voir que votre nom courait aussi légèrement de lèvres en lèvres comme celui de quelque danseuse. J'attendais avec impatience cette matinée pour venir vous trouver et vous avertir. J'ai rencontré Glaucus ici et j'ai perdu tout empire sur moi-même. J'avais peine à cacher mes sentiments. Oui, j'ai manqué de politesse en sa présence. Pardonnez-vous à votre ami, Ionée. » Ionée prit sa main dans la sienne sans dire un mot. « Ne parlons plus de cela, dit-il, mais que ma voix soit entendue et qu'elle vous fasse réfléchir à la prudence commandée par votre position. Vous n'en souffrirez qu'un moment, Ionée, car un être aussi frivole que Glaucus ne saurait avoir obtenu de vous une pensée sérieuse. Ces insultes ne blessent que lorsqu'elles viennent d'une personne que nous aimons. Bien différent est celui que la superbe Ionée daignera aimer. Aimer, murmura Ionée avec un rire convulsif. Ah oui, aimer. Il n'est pas sans intérêt d'observer que dans ces temps lointains et dans un système social si différent du nôtre, les mêmes petites causes troublaient et interrompaient le cours de la passion. C'était la même jalousie inventive, les mêmes calomnies artificieuses, les mêmes commérages fabriqués par l'oisiveté ou la méchanceté, qui viennent encore de nos jours briser quelquefois les liens d'un tendre amour et contrecarrer les circonstances en apparence les plus favorables. Lorsqu'une barque s'élance sur les plus douces eaux, la fable nous assure qu'un poisson de la plus petite espèce peut s'attacher à sa quille et l'arrêter dans sa marche. Il en a toujours été ainsi avec les grandes passions du cœur humain. Et nous ne reproduirons que bien imparfaitement la vie, si même dans les temps qui se prêtent le plus au roman dont nous usons si largement nous-mêmes, nous n'écrivions pas aussi le mécanisme de ces ressorts domestiques que nous voyons tous les jours à l'œuvre dans nos maisons et dans nos âmes. C'est à l'aide de ces petites intrigues de la vie que nous nous reconnaissons dans le passé. L'Égyptien avait attaqué avec beaucoup d'adresse le côté faible d'Ionée. Il avait habilement dirigé son dard empoisonné contre son orgueil. Il crut qu'il avait porté une mortelle atteinte à ce qu'il regardait, d'après le peu de temps que Glaucus et Ionée se connaissaient, comme une fantaisie naissante. Et se hâtant de changer de sujet, il mit la conversation sur le chapitre du frère d'Ionée. L'entretien ne fut pas long. Il la quitta, bien résolu à ne plus se fier autant à l'absence, mais à la visiter et à la surveiller chaque jour. À peine l'ombre d'Arbacès eut-elle disparu de cette demeure, que tout orgueil, toute dissimulation de femme abandonna la victime de ses desseins.
La superbe Ionée versa un torrent de larmes passionnées. Chapitre 7. Lorsque Glaucus quitta Ionée, il lui sembla qu'il avait des ailes. Dans l'entrevue dont elle avait favorisé, il avait compris distinctement pour la première fois que son amour n'était pas mal accueilli et qu'il pourrait en obtenir la douce récompense. Cette espérance le remplissait d'un ravissement tel que la terre et le ciel lui paraissaient trop étroits pour qu'il respirât à son aise. Sans se douter qu'il venait de laisser un ennemi derrière lui, et oubliant non seulement les insultes, mais même la propre existence d'Arbacès, Glaucus traversa de joyeuses rues en fredonnant, dans l'ivresse de son âme, la musique de l'air qu'Ionée avait écouté avec tant d'intérêt. Il entra dans la rue de la Fortune, qui était garnie d'un haut trottoir et dont les maisons, peintes au dehors et au dedans, laissaient voir de tous côtés leurs fresques éclatantes. Au bout de chaque rue s'élevait un arc de triomphe. Au moment où Glaucus arrivait devant le temple de la Fortune, le portique avancé de ce magnifique temple, qu'on suppose avoir été bâti par un des membres de la famille de Cicéron, peut-être par l'orateur lui-même, prêtait un caractère vénérable et imposant à une scène plus brillante d'ailleurs que majestueuse. Ce temple était l'un des plus gracieux modèles de l'architecture romaine. Il était élevé sur un podium assez considérable, et l'on voyait l'autel de la déesse entre deux escaliers conduisant à une plateforme. De cette plateforme, un autre escalier allait rejoindre le portique aux colonnes cannelées auxquelles étaient suspendues des guirlandes de fleurs. Aux deux extrémités du temple, on voyait deux statues dues à l'art de la Grèce, et à peu de distance du temple, l'arc de triomphe se dressait avec une statue équestre de Caligula flanquée de trophées en bronze. Une foule animée était rassemblée dans l'espace qui précédait le temple. Les uns assis sur des bancs et discutant la politique de l'Empire, les autres s'entretenant du prochain spectacle de l'amphithéâtre. Un groupe de jeunes gens faisait l'éloge d'une beauté nouvelle. Un autre s'occupait des mérites de la dernière pièce de théâtre. Un troisième groupe, d'un âge plus respectable, calculait les chances du commerce d'Alexandrie. Celui-là était particulièrement composé de marchands en costume oriental, aux robes flottantes, avec pantoufles ornées de pierreries. Leur maintien sérieux formait un frappant contraste avec les tuniques serrées et les gestes expressifs des Italiens, car ce peuple impatient et aimable avait alors comme à présent un langage distinct de la parole, langage de signes et de mouvements les plus vifs et des plus significatifs. Ses descendants l'ont conservé et le savant Giorgio a composé un très intéressant ouvrage sur cette espèce de gesticulation hiéroglyphique. Glaucus, en pénétrant d'un pas léger dans cette foule, se trouva bientôt au milieu de ses amis les plus gais, les plus dissipés. « Ah ! » dit Sallust, « il y a un lustre que je ne vous ai vu !» « Et comment avez-vous passé ce lustre? Quel nouveau mets avez-vous découvert ?»« Oh, je donnais mon temps à la science, » répondit Salluste, « et je fais des expériences sur la manière de nourrir les lamproies. J'avoue que je désespère de les amener au point de perfection que nos ancêtres romains avaient obtenu. »« Malheureux Salluste, et pourquoi ?»« Parce que, » reprit-il en soupirant, il est plus permis de leur donner quelques esclaves à manger. J'ai été souvent tenté, malgré cela, de jeter dans mon réservoir un gros bec d'autel que je possède. Je suis sûr que sa chair donnerait au poisson la plus exquise saveur. Mais, faut, les esclaves ne sont plus des esclaves aujourd'hui et n'ont plus de sympathie pour les intérêts de leur maître. Sans quoi, Davus se livrerait lui-même au lamproie pour m'obliger. « Quelle nouvelle de Rome ?» dit Lépidus en s'approchant du groupe d'un air languissant. L'empereur a donné un splendide souper au sénateur, répondit Salluste.
Oh, c'est un bon prince, dit Lépidus. On assure qu'il ne revoit jamais personne sans lui accorder sa requête.
Peut-être me laisserait-il jeter un esclave dans mon réservoir, se hâta d'ajouter Salluste.
Cela se pourrait bien, dit Glaucus, car pour faire une faveur à un Romain, il faut d'abord que ce soit toujours aux dépens d'un autre. Soyez certain que chaque sourire de Titus a causé bien des larmes.
Longue vie à Titus ! Cria Pansa, en entendant prononcer le nom de l'empereur au moment où il s'avançait d'un air protecteur dans la foule.
Il a promis une place de questeur à mon frère qui a perdu sa fortune.
Et qui souhaite de la refaire aux dépens du peuple, n'est-ce pas, cher Pansa ? Dit Glaucus.
« Assurément, » répondit Pansa.
« Ben voilà comment le peuple sert à quelque chose, » continua Glaucus.
« Sans doute, » poursuivit Pansa, « mais il faut que j'aille visiter l'aérarium qui a besoin d'être réparé. »
Alors, en se donnant beaucoup d'importance, l'édile s'éloigna, accompagné d'une longue suite de clients qui se distinguaient du reste de la foule par leurs toges, car les toges marquent autrefois de la liberté, était devenu un signe de servilité envers le patron.
Pauvre Pansa, dit Lépidus, il n'a jamais le temps de prendre un plaisir.
Oh, le ciel soit loué de ce que je ne suis pas un édile.
Ah, Glaucus, comment vous portez-vous ? Toujours gai ? S'écria Glaucus en se joignant au groupe.
« Êtes-vous venu pour faire un sacrifice à la fortune ?» dit Salluste.
« Je sacrifie à la fortune toutes les nuits, » répondit le joueur.
« Je le sais, personne ne lui offre plus de victimes. »«
Ah, par Hercule, voilà un bon mot, » dit Glaucus en riant.
« Vous avez toujours la lettre du chien à la bouche, Salluste, » répliqua Claudius avec humeur. « Vous grognez continuellement. »
Ben, je puis bien avoir à la bouche à l'aide du chien, reprit Salluste, puisque lorsque je joue avec vous, j'ai toujours à la main les poings du chien.
Paix, dit Glaucus, en prenant une rose à une bouquetière qui se tenait près d'eux.
La rose est l'emblème du silence, reprit Salluste, mais je l'aime à la voir qu'à la table du souper.
À propos, ajouta-t-il. Diomède donne une grande fête la semaine prochaine. Êtes-vous invité, Glaucus ?
Oui, j'ai reçu une invitation ce matin.
Moi aussi, dit Salluste en tirant de sa ceinture un petit morceau de papyrus.
Je vois qu'il nous convie une heure plutôt que de coutume.
Cela prouve que la fête sera magnifique.
Oh, il est riche comme Crésus, dit Claudius, et le menu de ses festins est aussi long qu'un poème épique.
Allons au bain, dit Glaucus. C'est le moment où tout le monde y va, et Fulvius, que vous admirez tous, vous y lira sa dernière ode. Les jeunes gens accédèrent à cette proposition et se dirigèrent vers les bains. Quoique les thermes ou bains publics fussent établis plutôt pour les pauvres que pour les riches, car ceux-là avaient des bains dans leur propre maison, c'était néanmoins pour les personnes de tout rang un lieu favori de conversation et le rendez-vous le plus cher de ce peuple indolent et joyeux. Les bains de Pompéi différaient naturellement dans le plan et dans la construction des thermes vastes et compliqués de Rome. Et il paraît en effet que dans chaque ville de l'Empire, il y avait toujours quelques légères modifications dans l'arrangement de l'architecture générale des bains publics. Ceci étonne singulièrement les savants, comme si les architectes et la mode n'avaient pas eu leur caprice avant le XIXe siècle. Les amis entrèrent par le porche principal de la rue de la Fortune. À l'aile du portique était assis le gardien du bain, ayant devant lui deux boîtes, l'une pour l'argent qu'il recevait, l'autre pour les billets qu'elle distribuait. Des personnes de toute classe reposaient sur des sièges, tandis que d'autres, selon l'ordonnance prescrite par les médecins,
se promenaient d'un bout à l'autre du portique et s'arrêtaient çà et là pour regarder les innombrables affiches de jeux de vente ou d'expositions qui étaient peintes ou inscrites sur les murs. Le spectacle annoncé dans l'amphithéâtre faisait le principal sujet de la conversation, et chacun des survenants était questionné vivement par quelques groupes empressés de savoir si Pompéi avait eu aussi la chance de rencontrer quelques monstrueux criminels convaincus de sacrilège ou de meurtre qui permettraient enfin aux édiles de jeter un homme à dévorer au lion. Tous les autres divertissements paraissaient pâles et fastidieux comparés à la probabilité de cette bonne fortune. « Pour ma part, dit un orfèvre à l'air enjoué, je pense que l'empereur, s'il est aussi généreux qu'on le prétend, ferait bien de nous envoyer un juif. Mais pourquoi pas prendre un des nouveaux adeptes de la secte des Nazaréens, dit un philosophe. Je ne suis pas cruel, mais un athée qui nie Jupiter lui-même ne mérite pas de pitié. Je ne m'inquiète pas du nombre de dieux que peut adorer un homme, reprit l'orfèvre, mais les renier tous, voilà qui me semble monstrueux. Cependant, dit Glaucus, j'imagine que ces gens ne sont pas absolument athées. On m'a assuré qu'ils croyaient à un dieu et à un autre monde. C'est une erreur, mon cher Glaucus, répondit le philosophe. J'ai conféré avec eux, ils m'ont ri au nez lorsque j'ai parlé de Pluton et du Tartare. Dieu tout-puissant, s'écria l'orfèvre avec horreur, y a-t-il quelques-uns de ces misérables à Pompéi? Oh, il y en a, mais peu. Ils se rassemblent dans des lieux si secrets qu'il est impossible de les découvrir. Glaucus s'éloigna de quelques pas. Un sculpteur enthousiaste de son art le contempla avec admiration. « Ah ! S'écria-t-il, si nous pouvions mettre celui-là dans l'arène, quel beau modèle cela ferait ! Quel membre, quelle tête ! Oh, il aurait dû être gladiateur ! C'est un sujet, un vrai sujet digne de notre art. Pourquoi ne le donne-t-on pas au lion ?» Pendant cette exclamation du sculpteur Fulvius, poète romain que ses compatriotes déclaraient immortel et dont le nom, sans cette histoire, ne serait pas parvenu jusqu'à notre siècle négligent, Fulvius s'approcha vivement de Glaucus. « Oh, mon Athénien, mon cher Glaucus, dit-il, vous êtes venu pour entendre mon ode. Oh, c'est un honneur que vous me faites, vous, un Grec, qui rendez poétique le langage ordinaire de la vie. Combien je vous remercie! Ce n'est qu'une bagatelle, mais si j'obtiens votre approbation, je pourrais peut-être arriver jusqu'à Titus. Oh, Glaucus, un poète sans patron est une amphore sans étiquette. Le vin peut être bon, mais personne ne lui rend hommage. Et que dit Pythagore? L'encens est pour les dieux, la louange pour l'homme. Un patron est donc le prêtre du poète. Il lui procure l'encens et lui gagne des croyants. Mais tout Pompéi est votre patron, tout portique est un autel élevé en votre honneur. Ah oui, les pauvres Pompéiens sont très honnêtes. Ils aiment à honorer le mérite, mais ce ne sont que les habitants d'une petite ville. Spero meliora. Entrerons-nous? Oh, certainement, nous perdons le temps que nous passons à ne pas écouter votre poème. En ce moment, une vingtaine de personnes se précipitèrent des mains dans le portique, et un esclave de garde à la porte d'un petit corridor admit dans ce passage le poète, Glaucus, Claudius et un groupe des autres amis du poète. Pauvre sale, comparé au terme de Rome, dit Lépidus avec mépris. Oh, ceci est pourtant d'un assez bon goût, dit Glaucus, disposé à trouver toute chose charmante en désignant les étoiles qui décoraient le plafond. Lépidus haussa les épaules, mais il était trop indolent pour répondre. Ils entrèrent alors dans une chambre un peu plus spacieuse qui servait d'apoditerium, lieu où les baigneurs se préparaient à leur voluptueuse ablution. Le plafond cintré s'élevait au-dessus d'une corniche que décoraient brillamment des peintures grotesques et bigarrées. Il était lui-même divisé en blancs compartiments bordés de cramoisies d'une très riche façon. Le pavé net et brillant était composé de blanches mosaïques. Autour des murs se trouvaient des bancs pour la commodité des paresseux. Cette salle ne possédait pas les nombreuses et spacieuses fenêtres que Vitruve attribue à son plus magnifique Frigidarium. Les Pompéiens, comme les Italiens du Midi, aimaient à se soustraire aux lumineux éclats de leurs cieux enflammés et associaient volontiers l'ombre et la volupté. Deux fenêtres de verre admettaient seules des rayons doux et voilés, et la façade dans laquelle l'une de ces fenêtres était placée s'embellissait d'un large bas-relief qui représentait la destruction des Titans. Fulvius, assis dans cet appartement d'un air magistral, et ses auditeurs, rassemblés autour de lui, l'engagèrent à commencer sa lecture. Le poète ne demandait pas des sollicitations très vives. Il tira de sa ceinture un rouleau de papyrus, et après avoir toussé deux ou trois fois, tant pour imposer silence que pour éclaircir sa voix, il déclama cette ode merveilleuse dont, à son grand regret, l'auteur de cette histoire n'a pu retrouver un seul vers. Aux applaudissements qu'elle reçut, on peut croire qu'elle était digne de la réputation du poète. Glaucus fut le seul des auditeurs à ne pas reconnaître qu'elle surpassait les meilleures odes d'Horace. Le poème achevé, ceux qui prenaient seulement un bain froid commencèrent à se déshabiller. Ils suspendirent leurs vêtements à des crochets posés dans le mur, et après avoir reçu, selon leurs conditions, de la main de leurs esclaves ou de celle des esclaves appartenant au terme, des robes flottantes, ils passèrent dans cette gracieuse enceinte qui existe encore comme pour faire rougir leur postérité méridionale qu'on ne voit jamais se baigner. Les plus voluptueux se rendaient par une autre porte dans le tepidarium, salle qui était élevée à une douce chaleur, en partie au moyen d'un foyer mobile, mais surtout par un pavé suspendu au-dessus duquel était conduite la calorique du Laconicum. Les baigneurs de cette classe, après avoir quitté leurs vêtements, demeuraient quelque temps à jouir de la chaleur artificielle d'une atmosphère délicieuse. Et cette pièce, à cause de son rang important dans la longue série des ablutions, était encore plus richement et plus soigneusement décorée que les autres. Le plafond cintré était magnifiquement sculpté et peint. Les fenêtres, placées en haut, en verre dépoli, n'admettaient que des rayons vagues et incertains. Au-dessous des massives corniches se suivaient des figures en bas-relief vigoureusement accusées. Les murs étaient d'un rouge cramoisi, le pavé carrelé avec art se composait de mosaïques blanches. Là, les habitués qui se baignaient 7 fois par jour demeuraient dans un état de lassitude énervée et silencieuse, soit avant, soit après le bain. Quelques-unes des victimes de cette poursuite acharnée de la santé tournaient des yeux languissants vers les nouveaux venus et ne faisaient qu'un signe de tête à leur connaissance par crainte de la fatigue de la conversation. De ce lieu, la compagnie se dispersait de nouveau et chacun écoutait son caprice. Les uns allaient au sudatorium, qui faisait l'office de nos bains de vapeur, et de là au bain chaud lui-même. Les autres, plus accoutumés à l'exercice et voulant s'épargner de la fatigue, se rendaient immédiatement au calidarium, ou bain d'eau. Afin de compléter cette esquisse et de donner au lecteur une notion de cette volupté si chérie des anciens Romains, nous accompagnerons Lépidus qui passait régulièrement par tous les degrés de la cérémonie, à l'exception du bain froid hors de mode depuis quelque temps. Après s'être imprégné un peu de la douce chaleur du tépidarium, l'élégant de Pompéi se fit conduire lentement dans le sudatorium. Que le lecteur ici se dépeigne à lui-même toutes les phases d'un bain de vapeur accompagné de parfums. Dès que notre baigneur eut subi cette opération, il se remit dans la main de ses esclaves, qui l'accompagnaient toujours au bain, et les gouttes de sueur furent enlevées avec une espèce de grattoir qu'un moderne voyageur a prétendu n'être bon que pour ôter les malpropretés de la peau, quoiqu'il ne dût guère en exister chez un baigneur d'habitude. De là, un peu refroidi, il passa dans le bain d'eau où l'on répandit à profusion sur lui de frais parfums, et quand il en sortit par la porte opposée de la pièce, une pluie rafraîchissante inonda sa tête et son corps. Alors, se revêtant d'une robe légère, il retourna au tépidarium, où il trouva Glaucus, qui n'était pas allé jusqu'au sudatorium. Et le véritable plaisir, ou plutôt l'extravagance du bain, commença. Les esclaves, ayant à la main des fioles d'or, d'albâtre ou de cristal, ornées de pierres précieuses, en distillait les ongons les plus rares pour frotter les baigneurs. Le nombre de ces smegmata dont se servaient les personnes riches remplirait un volume, surtout si le volume était publié par un de nos éditeurs à la mode. C'était l'aborasimum, le mégalium, le nardum, omne quod exit in hom. Pendant ce temps, une douce musique se faisait entendre dans une chambre voisine, et ceux qui usaient des bains avec modération, rafraîchis et ranimés par cette gracieuse cérémonie, causaient avec toute la vivacité et toute la fraîcheur d'une existence rajeunie. « Ben, y soit celui qui a inventé les bains !» dit Glaucus en s'étendant sur un des sièges de bronze, recouvert alors de moelleux coussins, que le visiteur de Pompéi trouve encore dans ce même tépidarium. Oh, que ce soit Hercule ou Bacchus, il mérite l'apothéose. Mais dites-moi, demanda un citoyen chargé d'embonpoint, lequel soupirait, soufflait pendant que le grattoir s'exerçait sur sa peau. Dites-moi, ô Glaucus, oh, bon, dites soit tes bains, esclave, tu m'écorches. Dites-moi, les bains de Rome, sont-ils aussi magnifiques qu'on le dit ? Glaucus se retourna et reconnut Diomède, non pas sans difficulté, tant les joues du brave homme étaient enflammées par la transpiration et par l'opération qu'il subissait. Eh bien, figure qu'ils sont bien plus beaux que ceux-ci, n'est-ce pas ? Glaucus, retenant un sourire, répondit « Ben, imaginez tout Pompéi converti en bain, et vous vous formerez alors une idée de la grandeur des thermes impériaux de Rome. Mais seulement de la grandeur. Imaginez tous les amusements de l'esprit et du corps. Énumérez tous les jeux gymnastiques que nos ancêtres ont inventés. Rappelez-vous tous les livres que l'Italie et la Grèce ont produits. Supposez des salles pour ces jeux, des admirateurs pour tous ces ouvrages. Ajoutez à cela des bains de la plus grande dimension et de la construction la plus compliquée. Mêlez-y partout des jardins, des théâtres, des portiques, des écoles. Figurez-vous en un mot une cité de Dieu composée uniquement de palais et d'édifices publics, et vous aurez une image assez faible encore de la magnificence des grands bains de Rome. Par Hercule, dit Diomède en ouvrant les yeux, il y a de quoi appuyer toute la vie d'un homme, rien qu'à se baigner. Cela se voit souvent à Rome, reprit gravement Glaucus. Il y a bien des gens qui passent leur vie au bain. Ils y arrivent au moment où les portes s'ouvrent et n'en sortent qu'à l'heure où elles se ferment. Ils semblent ne connaître rien de Rome ou mépriser tout ce qui peut y exister ailleurs. Par Pollux, vous m'étonnez. Ceux-là même qui ne se baignent que 3 fois le jour s'efforcent de consumer leur vie dans cette occupation. Ils prennent quelques exercices dans le jeu de paume ou dans les portiques pour se préparer leur premier bain et se rendent au théâtre pour se rafraîchir ensuite. Ils prennent leur dîner sous les arbres en songeant à leur second bain, et pendant qu'on le prépare, leur digestion s'achève. Après le second bain, où ils se retirent dans quelque péristyle pour entendre un nouveau poète réciter ses vers, ou bien ils entrent dans la bibliothèque afin de s'endormir, le front sur quelque vieil auteur. L'heure du souper est venue. Le souper est regardé comme faisant partie du bain. Ils se baignent encore ensuite une 3e fois et restent en ce beau lieu leur paraissant le plus agréable du monde pour converser avec leurs amis. Par Hercule, n'avons-nous pas leur imitateur à Pompéi? Oui, sans avoir leur excuse. Les superbes voluptueux de Rome sont heureux. Ils ne voient autour d'eux que la puissance et la splendeur. Ils ne visitent pas les quartiers infimes de la ville. Ils ne savent pas que la pauvreté existe sur la terre. Toute la nature leur sourit, et la seule grimace qu'ils puissent lui reprocher, c'est lorsqu'elle les envoie au bord du Cocyte. Croyez-moi, ce sont là les vrais philosophes. Pendant que Glaucus causait ainsi, Lépidus, les yeux fermés et ne respirant qu'à moitié, subissait toutes les opérations mystiques dont il ne permettait à ses esclaves d'omettre aucune. Après les parfums et les onguents, ils répandirent sur sa personne une poudre voluptueuse qui empêchait la chaleur de revenir, et cette poudre enlevée au moyen de la pierre ponce, il commença à revêtir non pas les habillements qu'il avait en entrant, mais de plus riches qu'on appelait la synthèse et qui marquaient tout le respect qu'on portait au prochain souper, repas qu'il serait plus convenable d'appeler dîner d'après la manière que nous avons de mesurer le temps, puisqu'on le prenait vers 3 heures de l'après-midi. Cela fait, il ouvrit les yeux et donna un signe de retour à la vie. Au même instant, Salluste, par un bâillement prolongé, témoigna aussi de son existence. « C'est l'heure du souper, » dit l'épicurien. « Glaucus et Lépidus, allez, venez souper avec moi. » Rappelez-vous que vous êtes tous engagés chez moi pour la semaine prochaine, dit Diomède, qui se montrait tout fier de jouir de la connaissance d'hommes à la mode. Ah, nous l'aurons garde oublié, s'écria Salluste. Le siège de la mémoire, cher Diomède, est assurément dans l'estomac. Passant alors dans un coin plus frais, et de là dans la rue, nos élégants mirent fin à la cérémonie d'un bain pompéien.